cours du Rav Béressi le samedi 8 décembre, 7e jour de Hanouka. 7e bougie.
Alors on commençait, Shavua Tov, Hanouka Sameach. Merci d'abord monsieur et madame Guetta de nous accueillir à chaque fois pour
tout un grand plaisir de
avec,
vous avoir.
J'aime beaucoup d'abondance.
Amen.
Que votre maison soit toujours source de bénédiction, de bracha, et toujours
amen,
que des bonnes
amen,
nouvelles, de bonnes choses.
Amen.
Alors, je vais préparer un petit chiour sur Hanouka. Et on va diviser le cours en deux parties. Une première partie qui est assez technique, c'est à savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement à Hanouka. Et ensuite, on va approfondir, rentrer un petit peu dans la pensée du Maharal. Qu'est-ce que l'on peut retirer de cet exil de Yavan et de ce Hanouka, ces Yevanim, qu'est-ce qu'ils voulaient au juste? On va, Be'ezrat Hashem, un petit peu développer tout cela. Mais d'abord, on commence par, toujours au début, par l'Agmara, qui va nous définir exactement qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka. Alors, aussi étonnant que ce soit, une fête comme Hanouka, où on va allumer pour faire le Pirsume Nissa, c'est-à-dire depuis l'année d'après, comme on va le voir dans la Gemara, l'année d'après le miracle de Hanouka, on a déjà commencé à allumer les Nerot pour Pirsume Nissa, pour dévoiler le Nes. Eh bien, aussi étonnant que ce soit, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, quel était le Nes. Il y a la fameuse question du Bet Yosef, que nous allons tout de suite voir, à laquelle il y a plus d'une centaine de réponses pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka. C'est assez paradoxal. D'un côté, une fête où on a un Pirsume Nissa, donc depuis, on devrait exactement savoir quel est le Nes, et pourtant, on voit que nous n'avons pas tous les éléments. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur Hanouka. On va d'abord faire un peu d'ordre, puisque comme le dit toujours le Ramchal, début de son Sefer Derech Hashem, lorsque les choses sont ordonnées, les grandes lignes sont ordonnées, même si ensuite on doit chercher les détails, mais au moins on voit clair et on peut apprécier un petit peu la vue d'ensemble. Lorsque c'est Tmoua Mélé, il compare ça à un jardin où il y a des rangées d'arbres, des rangées de fleurs, ou alors un autre jardin où tout est emmêlé. Quand tout est emmêlé, on veut nous montrer les roses et les tulipes, on voit rien. Lorsqu'il y a des rangées, même si on n'a pas tout vu, mais on voit, le jardin est ordonné. Donc on va essayer un petit peu d'ordonner ce jardin. La Gemara nous dit dans Maseret Shabbat, vous savez que dans la Mishnah elle-même, Hanouka n'apparaît pas vraiment. Il apparaît juste à propos des nezikim, c'est-à-dire des dommages, que si quelqu'un est rentré, il a marqué, il a passé dans une rue, il avait un chameau qui était chargé de coton, de lin, et qu'en passant, le chameau est un petit peu rentré dans un magasin, il y avait une lumière qui était allumée, que ça a pris feu, tous les dégâts, qui est responsable? Donc ça c'est la Gemara de Baba Kama, et la Gemara nous dit que si la lumière était à l'extérieur, c'est bien sûr le propriétaire du magasin qui est responsable. Pourquoi il laisse la lumière à l'extérieur? Sauf si ce sont les nerots de Hanouka, parce qu'on doit les mettre à l'extérieur. Donc c'est le seul remez qu'on voit dans la Mishnah sur Hanouka. Mais la Gemara nous en parle dans Maseret Shabbat, à propos du Perek Bamé Madlikim, avec quoi on allume les nerots de Shabbat, et on commence les nerots de Shabbat, et on intègre les nerots, l'intercale des nerots de Hanouka. Donc la Gemara pose une question, Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est Hanouka? Qu'est-ce que c'est Hanouka? On ne savait pas. Jusqu'à ce que la Gemara pose la question, qu'est-ce que c'est Hanouka? On ne savait pas. Maï Hanouka. Bon, la Gemara, Rashi précise, c'est-à-dire Al Ezenes Kavua, c'est-à-dire sur quel miracle on a fixé Hanouka. Là aussi, Rashi nous laisse entendre. Ça veut dire quoi sur quel miracle? Moi, il y en a plusieurs miracles. Il pourrait y avoir une question, quel miracle? C'est-à-dire, je sais c'est quoi Hanouka, mais je recherche Ezenes, quel miracle? On va voir. Donc là, Mishnah nous dit, la Gemara nous dit, c'est une Braïta. Le 25 qui se lève, commence 8 jours de Hanouka où on ne pourra pas prononcer d'oraison funèbre ni jeûner. Et la Gemara explique, yevanim la, lorsque les Yevanim, les Grecs, sont entrés dans le Echa, dans le Bet Amikdash, timu kol hashmanim, ils ont rendu impures toutes les huiles qui se trouvaient chez Ba'echa, dans l'enceinte du Bet Amikdash. Pourquoi les Yevanim se sont attaqués aux shmanim, aux huiles? Qu'est-ce qu'il y avait si particulier dans l'huile. On essaiera d'expliquer cela par la suite. Donc, chez Gavra, Malchut Bet Hashmonaï, lorsque le règne des Hashmonaïm a eu le dessus, Venitzroum les ont vaincus. Donc, c'est Matatyahu et ses enfants qui sont partis en guerre contre les Yévanim. Ils les ont vaincus. Batkou, on a cherché. Velomatsu et la Pachechat Shel Shemen. On n'a trouvé qu'une petite fiole d'huile, Shaya Munar, qui était posée, Bechotamo Shel Kohen Gadol, avec le sceau du Kohen Gadol. Velo Ayabo et la Leadlik Yom Echad. Il n'y avait de quoi allumer qu'un seul jour. Naasa Bones, il y a eu un miracle, Vidlik Umimenu Shmona Yamim. Et on allumait de cette petite fiole, 8 jours, la Menorah dans le Bet Amigdash. Les Shana Acheret, l'année d'après, Kavoum, on a fixé Vasaum Yamim Tovim. On en fait des jours de Yom Tov, c'est-à-dire juste Behalel ou Behoda'a, c'est-à-dire de louer Akadosh Baruch Hu et de remercier Akadosh Baruch Hu. Nous n'avons pas d'interdiction de travailler pendant ces 8 jours, mais on doit louer Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'on a instauré le Alanissim dans la Tfila et le Hallel que nous lisons tous les jours. Dans le Alanissim, qu'est-ce que l'on dit dans la Nissim? On dit, donc tu as mis Masata Giburi Biatralashim, les forts dans les mains des faibles, etc. On reprendra aussi la Nissim. Et Vacharkar, lorsqu'ils ont gagné, Baou, Vacharkar, Mdechaou, Finou et Techalecha, Vetiarou, Mdechecha, Vidli Kunerot. Mais on ne parle pas dans la Nissim qu'on a trouvé une petite fiole d'huile. Ça ne fait pas partie du miracle. Dans Alanissim, on ne remercie pas Kadosh Baruch Hu. Vidliku Nerot, Bechatzor, on allumait des Nerot. Dans Alanissim, si c'est le miracle, on aurait peut-être pu dire, on avait une fiole pour un seul jour et on a allumé avec 8 jours. Non, ce n'est pas mentionné. C'est assez étonnant. Et dans le Nerot Alal, Wano Madlikim, Nesim Porkan, Gwad, Shwan, Vermot, Shasit, Alautin, Bayemi, Mahem, Bazman, Nazé. Allez dire quoi, Necha, Kedushim, Natun, Nechanot. On ne mentionne même pas qu'on a trouvé, mais c'est-à-dire on a, à part les Kohanim qui ont été donc les héros de cette fête de Hanouka. La fiole d'huile n'est pas mentionnée ni dans le Alanissim, ni dans Anerot Alalu. Il est mentionné dans la Gemara, et la Gemara nous dit que par ce miracle, donc, on a fixé les 8 jours de Hanouka. La fameuse question du Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, qui pose une question toute simple, toute logique, et qui dit, puisqu'il y avait de quoi allumer un jour, et que grâce à cette huile, on a allumé 8 jours, donc il y a eu un miracle de combien de jours?
7 jours.
Alors 8, pourquoi on fait 8 jours? C'est une question toute simple, mais sur laquelle nous avons, c'est peut-être la question où nous avons le plus de réponses, puisqu'il y a des livres entiers qui ont été écrits, des centaines, plus de 100 réponses. Pourquoi on a autant de réponses? Parce qu'en vérité, on n'a pas d'éléments. Ce n'est pas marqué dans la Gemara plus que ça. Donc on ne sait pas, et chacun donne une réponse. C'est qu'il y a même quelqu'un qui répond que pourquoi ils ont fait 8 jours. C'est que comme nous avons une interdiction, on a étudié dans le Dafayumi de Maseret Avodah Zarah, on a une interdiction de faire une représentation d'une menorah de 7 branches. Donc on ne pouvait pas faire des Hanoukiyot de 7 branches. C'est vrai que le miracle était 7, mais on ne pouvait pas faire 7 puisqu'on a une interdiction de faire une Hanoukia de 7.
Pourquoi on a une interdiction?
Parce qu'on apprend d'un passou que comme c'était au Beth Amikdash, le temple, tout ce qui était au temple, on ne peut pas le refaire. On ne peut pas refaire une menorah. Si je veux faire un beau chandelier là, de 7 branches, c'est interdit.
Ou un Aron HaKodesh.
Ou le même, le Aron, le Shulchan, on ne peut pas. Un hôtel, on ne peut pas faire les représentations qui étaient au Beth Amikdash, de la même manière qu'on ne peut pas représenter le soleil, la lune, etc. Donc certains répondent que pour cela que les Chachamim ont instauré 8 jours, parce qu'on a un problème technique qui est qu'on ne peut pas faire une menorah de 7 branches. Bon, ça c'est une réponse. Voyons voir ce que le Bet Yosef nous donne comme réponse. Le Bet Yosef propose 3 réponses. Première réponse, il nous dit la chose suivante. Ils ont divisé l'huile en 8 parties. Et la première nuit, ils n'ont mis qu'un 1/8 de l'huile.
Donc 3 heures.
Et ça a brûlé toute la nuit. Puisque au Beth Amikdash, on allumait la menorah en fin d'après-midi et elle devait brûler toute la nuit. La menorah ne brûlait pas toute la journée, 24 heures sur 24. Même le nerf tamid qui était là-bas ne brûlait pas automatiquement 24 heures sur 24. l'était allumé un peu avant la tombée de la nuit. Jusqu'au matin, il fallait qu'il y ait suffisamment d'huile pour que ça brûle toute la nuit. Donc, dit le Beit Yosef, au lieu de mettre toute l'huile le premier soir, ils n'ont mis qu'un huitième. Ça, c'est une réponse. Sur cette réponse, nous avons la fameuse question du prix Hadash, un des poskim bien connu, qui dit, mais on n'a pas le droit de mettre un huitième. On doit mettre ce qu'il faut mettre. Si aujourd'hui tu peux faire la mitzvah, tu la fais. Si demain tu ne peux pas la faire, tu ne la fais pas. Mais tu ne vas pas mettre un huitième. Faire un huitième, c'est ne pas accomplir la mitzvah. Donc c'est rien faire. C'est comme si quelqu'un dit...
Mais est-ce qu'on savait qu'il y avait le nes au départ?
Non, on ne savait pas.
On ne pouvait pas faire un huitième.
Donc on ne pouvait pas faire un huitième. Pourtant, bon, le Beit Yosef, ils ont mis un huitième. Donc la question, pourquoi ils vont mettre un huitième? Puisque une mitzvah se présente à toi, tu la fais. Si ça dure, ça dure. Mais si ça ne dure pas, ils ne pensaient pas que ça dure. Il fallait donc faire la mitzvah ce jour-là. D'ailleurs, pourquoi on avait besoin d'un miracle de 8 jours? Vous savez que nous avons là aussi deux explications dans les Rishonim. Ça aussi, nous n'avons pas vraiment des choses marquées par nos Chachamim. Ce sont les Rishonim de réponse. Certains disent qu'il y avait de l'huile pure, mais qui était à 4 jours de marche. Donc, il fallait 4 jours aller, 4 jours revenir pour récupérer de l'huile pure. D'autres expliquent, dans les Rishonim, toujours le Ran, que il fallait se purifier de l'impureté des morts puisqu'on avait tué des Yévanim. Donc, il fallait 7 jours de purification et le 8e jour, faire de l'huile. Et donc, on avait besoin de 8 jours. C'est pour ça qu'on a 8 jours. Donc, pourquoi 8 jours? Juste à brûler 8 jours. Si on avait ensuite de l'huile, et pourquoi pas 9 et pourquoi pas 10? Donc, 8, il nous fallait pour avoir de la nouvelle huile, de l'huile pure. Est-ce que tous les Kohanim étaient impurs ou il y avait des Kohanim purs? Si les Kohanim étaient impurs, alors lorsqu'ils ont allumé, ils ont rendu l'huile impure. Donc on n'a rien gagné. Il suffisait de prendre aussi de l'huile impure. Et c'est vrai qu'au Beit HaMikdash, si on est tous en état d'impureté, on va faire la avoda, on va allumer malgré l'impureté. Mais on doit dire qu'il y avait certainement des Kohanim qui étaient purs, pas tout le monde était impur, qui eux ont pu allumer la menorah avec de l'huile pure. Pourquoi ces Kohanim n'ont pas fabriqué l'huile d'olive? Là encore, une farchiniste que peut-être qu'ils ne savaient pas la faire. Ce n'est pas tout donné à tout le monde, puisque l'huile de la menorah était première pression. Il y avait le coup même sur le Berosh Hazayit.
Toujours?
Toujours, toujours. On prenait toujours de l'huile et elle venait en général de chez qui? De chez quelle tribu? De Asher. Puisque Asher, Shemena, Lachmo de Asher, c'est là-bas qu'on prenait l'huile. Donc, ce que nous disent les Rishonim, vous voyez que même là, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, pourquoi 8 jours, mais en tout cas, c'est un calcul. Ou aller-retour 8 jours, ou bien 7 jours de purification, et un jour pour fabriquer l'huile d'olive. Donc, première réponse du Beit Yosef, qui est quand même assez difficile, comme nous l'avons vu, c'est d'avoir divisé en 8 l'huile. Comment peut-on diviser? Puisque le premier soir, on devait remplir entièrement les petits verres de la menorah. Deuxième réponse que nous propose le Beit Yosef, c'est que on a versé le premier jour et la bouteille était toujours pleine. Donc on a versé 8 et elle est restée pleine. La fameuse bouteille d'arak de Baba Salaya, comme on dit là-bas, même la serviette, on a versé et elle était toujours pleine. Et il y a un avis aussi
avec les récipients d'huile.
Avec les récipients. Donc, dès le premier jour, il y avait un miracle, puisqu'on a rempli et la fiole était encore pleine. Mais là, il y a encore une question. C'est que le dernier jour, ce n'était pas la peine qu'il se remplisse, puisque le lendemain, on allait avoir de l'huile. Donc, on revient à la question qu'en vérité, il n'y a que 7 jours de miracle, puisque le 8e jour, lorsqu'on a mis l'huile, pourquoi il y a la nouvelle huile pour le lendemain. Donc le flacon n'avait pas besoin de se remplir encore une fois. Donc cette réponse est difficile. Une autre réponse que propose le Beit Yosef, c'est qu'ils ont tout mis dans les verres, mais le lendemain matin, ça avait brûlé toute la nuit et les verres de la menorah étaient pleins. Donc ça, c'est le Nes. Mais là encore, on a la même question. Ce sont les questions que le Pri Hadash pose sur le Beit Yosef. Disant que le 8e jour, lorsqu'on avait allumé, ce n'était pas la peine que l'huile reste, puisque le lendemain, on allait avoir de l'huile. Donc,
quelle imagination.
Vous voyez qu'on a trois réponses qui sont données par le Beit Yosef. Donc, lui-même ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, bien que le Beit Yosef avait un maguide, un malach qui venait lui parler. puisqu'il a écrit tout un livre d'ailleurs, le Maguid Mesharim, on voit tout ce que le Malach lui révélait. Ceci ne lui a pas été révélé, il a proposé trois réponses, et les réponses, comme on le voit, ont toutes une question. Certains posent aussi une question, en disant que si on verse et que l'huile se remplit, c'est donc de l'huile miraculeuse. Est-ce que l'on peut allumer au Beth Amigdash avec de l'huile miraculeuse? Il faut peut-être allumer avec de l'huile d'olive. Est-ce que l'huile de miracle, c'est aussi une huile miraculeuse, hein? Ça, c'est le pilpoul à la lituanienne. Laser. Est-ce que l'huile miraculeuse est appelée de l'huile d'olive? Vous connaissez la Gemara dans Maseret Souka, où il y a marqué que Hillel Zaken avait dit des élèves, le plus grand était Yonatan Ben Uziel, le plus petit Rabbi Yochanan Ben Zakkai, et que Yonatan Ben Uziel, lorsqu'il étudiait et qu'il y avait un oiseau qui passait brûlé au-dessus de lui, l'oiseau brûlait. Alors, comme on dit, il y a plusieurs manières d'étudier cette Gemara. Comment on étudie la Gemara? Ou bien, on va dire, vous vous rendez compte, la Kedusha, comment c'est beau, la Torah qu'il étudiait, Yonatan Ben Uziel, un oiseau, il passait, il brûlait. Ou bien vous avez l'autre qui va dire « Oh, le pauvre petit oiseau, dès qu'il passait là-dessus, il brûlait. » Ou on a encore celui qui va poser la question « Imaginons que cet oiseau m'appartenait et qu'il brûle juste au-dessus de sa tête. Est-ce qu'il doit me payer le dégât qu'il a occasionné ?» Bon, ça, ce sont les différentes, voilà. Ce sont les différentes facettes de pouvoir étudier la Gemara. Donc là aussi, est-ce que cette huile miraculeuse, est-ce que ça s'appelle de l'huile d'olive? Est-ce qu'on peut allumer avec? La réponse est que oui. Et on a plusieurs exemples dans la Gemara, je me dis rapidement, on a une Gemara concernant l'huile d'onction. L'huile d'onction, le Shemen HaMishra, qui avait été fabriqué par Moshe Rabbeinu. La Gemara nous dit dans Maseret Orayot, écrit tout, Shemen Mishrat Kodesh Ze. Ze, c'est la Gematria, Ze, Zainehe, de 12. Il n'y a pas beaucoup de Gematria dans la Gemara. Mais ça, c'est une des Gematriotes de la Gemara, Ze, c'est 12. C'est-à-dire que c'était fabriqué de 12 Hin. Hin, c'est une mesure, il y avait à peu près, hin, ça doit être entre, ça dépend des avis, entre 400 et 600 millilitres, c'est ça un hin, donc 12 et hin. Donc on va dire, on va prendre 600 millilitres, on multiplie par 12, ça faisait à peu près comme 7 litres 20 d'huile d'onction que Moshe Rabbeinu avait préparée. On avait oint Aaron, tous les Kohanim d'Olim, tous les rois étaient oints avec cette huile d'onction. Tout le Mishkan et les Kelim avaient été oints aussi, donc on jetait un peu d'huile sur tout. Et la Gemara nous dit « Zé les Dorotechem », c'est-à-dire que l'huile est restée 12 à jamais. Et cette huile a été bien sûr cachée en même temps que le Aaron. Il a été caché avant la destruction du premier Beth Amikdash, où il a été enfui, il a été mis en dessous le Beth Amikdash par Yoshiyahu Ameler, qui avait déjà son ancêtre, Shlomo Ameler, lorsqu'il avait construit le Beth Amikdash, il avait préparé un sous-sol pour cacher le Aaron, la Man, la Tzinsenet Aman, et le Shemen Amishra, et le bâton de Aaron. Tout ceci est ensemble et caché à un endroit que nous n'avons pas découvert, que nous découvrirons de toute manière pas jusqu'à la venue du Mashiach. Et donc mais cette huile d'onction, je ne sais pas si
régulièrement on dit que ça a été trouvé, mais en fin de compte, on le dit comme ça de temps en temps. Après, ils ont tout refermé pour ne pas en parler.
Donc il y a Zé, Li, les Dorotechem. Li, c'est-à-dire qu'il va y avoir Zé, 12, les Dorotechem pour toutes les générations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore 12. Comment est-ce possible que si on a oint de l'huile d'onction, qui était donc de l'huile d'olive parfumée avec les parfums comme c'est marqué dans la Torah, comment est-ce possible que donc cette huile qui est restée, donc c'est de l'huile miraculeuse, puisque tout ce qu'on a utilisé est toujours resté douce, et pourtant, bien qu'elle est miraculeuse, elle s'appelait huile d'onction et on pouvait asperger aussi. Nous avons une autre Gemara dans Maseret Menachot, étudiée, c'est avec le blé. Chitim She'alou Be'avim, le blé pour le Homer. Le Homer, c'était une offrande qu'on apportait au Beth Amikdash le deuxième jour de Pessah. Et la Gemara se pose une question. Si le Homer, c'était de l'orge qui devait venir de Eretz Israël, Mim Moshevotechem. Et la Gemara se pose la question, Chitim She'alou Be'avim. C'est-à-dire, alors Chitim, pardon, si c'est Chitim, donc c'est pour Shavuot, pas pour le Homer, Shavuot. Donc pour Shavuot. Chitim Shalou Be'avim, c'est-à-dire que les nuages ont amené du blé. Comment les nuages ont amené du blé? Il y a eu une pluie de blé. Rashi et Tosfot sont en discussion. Rashi explique que le nuage a été dans l'océan, il a absorbé, dit Rashi, il a aspiré il y avait un bateau de blé qui était donc dans l'océan. Le nuage a absorbé le blé. Ça a l'air d'être possible. Une tornade. Et ensuite, ce nuage a fait pleuvoir du blé en Israël. Est-ce que ce blé, on peut l'utiliser pour les Menachot? C'est la question d'après Rashi. Tosfot n'est pas d'accord pour diverses raisons. Et Tosfot dit non, en vérité, c'était un miracle. Il y a un miracle. Il y a eu du blé qui est tombé du ciel. Est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas? Alors, on se posera la question. Si c'est un miracle, mais en tout cas, ce n'est pas du blé. Donc, vous voyez que tout ce qui est même miraculeux, si Akadosh Baruch Hu fait que le miracle, c'est du blé, c'est du blé. Si le miracle, c'est de l'huile d'onction, c'est de l'huile d'olive. Et si le miracle, c'est que c'était de l'huile d'olive, donc c'est de l'huile d'olive, ça ne pose pas problème. Donc, le miracle était, comme nous l'avons vu, d'après ces trois explications, ou bien qu'on a divisé en trois, ou bien que ça s'est rempli dans la bouteille, ou ça s'est rempli dans le verre. D'autres expliquent encore que simplement l'huile n'a brûlé, elle, qu'un huitième. On a tout rempli, mais ça n'a brûlé qu'un huitième. Et donc le lendemain, on a essayé aussi, on a vu que ça ne brûlait qu'un huitième. Donc on a mis tout ce qu'on avait, mais à chaque fois, ça ne brûlait qu'un huitième. Donc le miracle était non pas dans la quantité, mais dans la qualité de l'huile. Ça, ce sont différentes explications que nous avons. Et on va terminer par une dernière. Oui, Mérina.
Une question naïve. Si on utilise des mèches plus fines, ça brûle
tout à fait.
Est-ce que c'était pas...
Alors, vous donnez exactement la belle explication du Beit HaLevi. Le Beit HaLevi pose une question. On voit que dans la Gemara, vous savez qu'il y a le fameux Mehadrin, Mina Mehadrin à Hanouka. C'est-à-dire que la mitzvah, c'est d'allumer une flamme. Et si on veut faire un hidour, chaque membre de la famille allume. Et si on veut faire un hidour de hidour, alors on allume en fonction des jours, en ordre croissant ou en ordre décroissant, Machloket, Beit Shammai et Beit Hillel. Nous, aujourd'hui, ce que l'on fait, on fait Mehadrin, Mina Mehadrin, premier jour. 1, 2, 3, et ainsi de suite jusqu'au huitième jour. Le Beit HaLevi se pose la question, comment se fait-il que sur une mitzvah midirabanan, on trouve comme ça 3 degrés de mitzvah? Il y a tout ça, Mehadrin, et Mehadrin, Mina Mehadrin, le top du top. Pourquoi les Chachamim ont instauré sous cette forme? Et il donne votre réponse. C'est-à-dire que, dès le départ, tout le Nes était parce que les Juifs ont voulu faire un Hidur mitzvah. La mèche aurait pu être divisée en 8 et ils auraient allumé un huitième de la mèche habituelle et ça aurait brûlé toute la nuit, mais avec une flamme plus fine. Ils ont voulu faire le Hidur mitzvah et allumer une belle flamme et Akadosh Baruch Hu a été dans leur sens et leur a fait un miracle. Mais c'est vrai que théoriquement, c'est ce qu'ils auraient pu faire. Et donc, puisque on a nous voulu faire à l'époque un Hidur mitzvah, les Chachamim ont instauré que notre Hanouka d'aujourd'hui va être aussi sous forme de Hidur mitzvah. Une autre réponse qui est donnée et qui est en vérité aussi celle du Maharal. Juste un petit peu différente le Maharal que le Prix Hadash. Le Prix Hadash dit, mais vous avez oublié un S et la guerre. Ouais. On a gagné la guerre. C'était pas un miracle. Surtout, dit le Maharal, que dans le Rambam, c'est marqué qu'ils ont gagné la guerre le 25 qui se lève. Donc quand est-ce qu'ils ont allumé la Hanoukia? Pour le soir du 26. Donc pourquoi le miracle, on commence le 25, on devrait commencer Hanouka le 26? Donc c'est la preuve qu'en vérité, le 25, on fait un premier jour pour le fait qu'on ait gagné la guerre. Et ensuite, 7 jours, puisqu'en vérité, il n'y avait que 7 jours de miracle, comme l'avait posé la question du Betsef, c'est une réponse du Prix Hadash. Le Maharal, lui, explique un peu différemment. Le Maharal dit, il pose une question, il dit comme ça. Je vous lis le thème du Maharal. Parce qu'il y a eu un S dans la Hadlaka, c'est pour cela qu'on fait Hanouka. Il dit, en général, un miracle se fait lorsque on a gagné quelque chose. Là, qu'est-ce qu'on a gagné avec ce miracle? On a gagné que la Hadlaka au Beit HaMikdash ne s'est pas annulée. Pour le Maharal, le fait que c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu de miracle, on n'aurait pas pu allumer. Donc, grâce au miracle, on a pu allumer. Pour le Maharal, ce n'est pas suffisant pour faire un jour de fête. C'est-à-dire, c'est comme si un jour on nous a fait un miracle pour qu'on puisse accomplir une mitzvah. Un miracle pour qu'on puisse accomplir une mitzvah, ce n'est pas une raison suffisante, d'après le Maharal, pour pouvoir faire les jours de fête. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Lui, il dit, en vérité, on a fait Hanouka parce qu'on a vaincu les Yevanim. Seulement, on aurait pu penser que ce n'était pas un miracle le fait qu'on ait vaincu les Yevanim. On aurait pu penser que les Maccabim, c'était des gens très très forts et qu'eux ont pu vaincre les Yevanim. On aurait donc pu dissimuler le miracle, dire bon, c'est notre force, nous, toujours nous. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il a fait aussi un miracle de la Hanoukia, de la Menorah. Et lorsque on voit le miracle de la Hanoukia, on va savoir aussi que c'est la même personne, le même miracle, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a fait le miracle de la guerre. Un peu comme le Ramban le dit à la fin de Parashat Bo. Le Ramban se pose une question. Il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu ne nous fait pas aujourd'hui des miracles comme il a fait au Bnei Israël en sortant d'Égypte. On a eu des miracles sortant d'Égypte. C'est normal que on était tous croyants et qu'on a tous vu. Aujourd'hui, c'est difficile. On est dans l'obscurité, on ne voit rien. C'est Akadosh Baruch Hu nous faisait des miracles. Eh bien, ça serait plus facile de croire en sa, en son existence, à son intervention dans le monde, à la grandeur du Am Israël, de servir. Alors le Ramban dit qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin, entre guillemets, de faire ses preuves à chaque génération. Il l'a fait une fois et il va nous demander de raconter à nos enfants, nos enfants, aux arrière-petits-enfants, ainsi de suite, tous les miracles que nous avons reçus à l'époque. C'est un peu comme la fameuse histoire du Rabbi Israël Salanter, où un jour il était chez quelqu'un qui lui disait « Rabbi, moi, si je voyais aujourd'hui des miracles, c'est sûr que ça serait facile de croire. Mais je n'en vois pas, alors j'ai des doutes. » Et puis, peu de temps après, la fille de cet homme-là est rentrée. Elle était toute contente. Elle me dit « Ah, Gvodara, vous savez ce que ma fille, elle a eu aujourd'hui ? Elle a eu son diplôme. Elle a fait, voilà, je ne sais combien d'années de piano. Et elle a reçu un diplôme, voilà, de... Quels sont les diplômes en piano ?» Alors, elle a dit « Ah, c'est très intéressant. » Elle dit « J'aimerais voir comment elle joue. » Elle dit « Tu pourrais me montrer, tu as eu un diplôme, j'aimerais voir s'il est justifié. » Alors, sa fille, elle a dit « Non, je ne joue pas. » Elle dit « Pourquoi tu ne joues pas ?»« Je voudrais voir si ton diplôme est justifié. » Elle a dit « Non, je ne vais pas, parce que ce monsieur-là qui ne s'y connaît même pas me demande de jouer, ce n'est pas pour lui que je vais jouer au piano. » Alors, le ravi a été voir le père, il a dit « Tu as vu ta fille, comme mauvaise midote, comment elle se conduit ?» Alors, il a expliqué, vous ne comprenez pas, elle a eu son diplôme, il y a des gens compétents qui ont vu, qui connaissent la musique. Vous ne connaissez pas la musique, elle a besoin de vous montrer à tout celui qui veut entendre sa musique. Alors, le Rav a dit, bon, tu as compris aussi, à Kadosh Baruch Hu, il a fait une fois les miracles, il ne va pas montrer à tout celui qui dit, moi j'aimerais aussi un miracle, j'aimerais voir. Ça a été donné une fois, c'est marqué, on l'a enseigné à nos enfants, etc., jusqu'à la fin des temps. Mais le Ramban poursuit, il nous dit, en vérité, tout ce qui nous arrive, le Teva, la nature, est en vérité tout un miracle. Tout tient par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, on ne voit pas la main de Dieu dans la vie de tous les jours. Akadosh Baruch Hu a fait des grands miracles, qui sont des miracles qui sortent des lois de la nature. Et de là, nous allons pouvoir juxtaposer, apprendre que tout ce qui nous arrive, ce n'est en réalité qu'un seul miracle. Et là, avec ces paroles du Rambam, je vais rentrer dans la deuxième partie, qui est la partie un petit peu de comprendre qu'est-ce que les Yevanim ont voulu faire, quelle était la guerre des Yevanim. Et tout d'abord, il y a quelque chose que nous devons approfondir, mais au moins réfléchir, c'est que la galoute de Yavan est une galoute, un exil différent des autres galouyotes. Nous avons eu la galoute de Paras, Madaï, Edom et Yavan. Yavan avant Edom. Il y a eu quatre galouyotes qui sont marquées dans le rêve de Nebuchadnezzar, dans Daniel aussi. Et ces quatre galouyotes, où on peut aussi prendre la galoute d'Égypte aussi, les galouyotes que nous avons eues qui comprend toutes les galouyotes. La galoute de Yavan est une galoute quand même qui est étonnante. On l'appelle galoute Yavan. Pourtant, les Bnei Israël n'étaient pas en exil, ils étaient chez eux. Exact, ils étaient chez eux, ils avaient le Beth Amigdash, et on parle d'un exil, de l'exil de Yavan. qu'est-ce que cela veut dire ? Normalement, l'exil, c'est lorsqu'on est en dehors de chez nous. Mais lorsqu'on est chez nous, on va parler d'exil de Yavan. Alors, les Mefarshim donnent une explication. C'est que la galoute, ce n'est pas vraiment une galoute physique. Il y a aussi la galoute physique lorsqu'on est en dehors de notre terre. Mais il y a surtout la galoute spirituelle, rouhanite. C'est quoi la galoute spirituelle ? C'est lorsque le lien spirituel que Am Israël a avec Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il est affaibli ou lorsqu'il est brisé, ça c'est la galoute. Et on le retrouve dans les mots du Ramban au début de Sefer Shemot. Le Ramban dit, dans les mots du Ramban, dit quelque chose d'assez étonnant, dit le Ramban. Lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, bien qu'ils sont sortis de leur esclavage et qu'ils n'étaient plus esclaves, ils étaient encore appelés en exil dans le désert, jusqu'au don de la Torah. Lorsqu'ils ont reçu la Torah et qu'ils ont fait le Mishkan et que Akadosh Baruch Hu a fait résider sa Shrina parmi eux, dit le Ramban, ils étaient appelés Geoulim, libérés. La Geoula de la Galoute de Mitzrayim, d'après le Ramban, Rahmanid, ne s'est pas faite lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, mais au moment du don de la Torah et ensuite lorsque il y a eu le Mishkan, parce qu'il y a eu la présence divine, la Shrina, qui est venue dans Am Israël. Lorsque Am Israël est rattaché à Kadosh Baruch Hu, il y a ce lien spirituel entre Am Israël et à Kadosh Baruch Hu, là on n'est pas en galoute. Lorsque ce lien est affaibli ou est brisé, même si on se trouve en Eretz Israël, comme à l'époque des Yevanim, ceci est appelé une galoute. C'est un exil. L'exil de Yavan était un exil rouhani, complètement rouhani. Vous connaissez certainement la fameuse question du Levouche qui s'étonne pourquoi à Pourim on fait des festins. Alors qu'à Hanouka, on ne fait pas vraiment de grandes fêtes de plats particuliers. Un peu les souganiotes, on rappelle les beignets, etc. Parce que c'est l'huile. Le Levouche répond parce que, à l'époque de Pourim, Haman voulait exterminer les Juifs. Et même si les Juifs étaient prêts à se convertir à la religion de Haman, ils voulaient les tuer quand même. Donc il y avait une guerre sur le corps, sur les corps. Donc lorsqu'on a été libéré de ce Haman, Akadosh Baruch Hu, le Chacham, le Chacham, mais dans la Megillat Esther, nous a demandé donc de faire Yemei Mishte Vesimcha, c'est-à-dire pour le corps, puisque c'est lui qui voulait être, qu'on voulait exterminer. Alors qu'à Hanouka, ce n'était pas le corps, on voulait l'âme. Et donc les Yevanim recherchaient, comme nous allons voir bien définir qu'est-ce qu'ils recherchaient dans le Ham Israël, et ce qu'ils voulaient enlever, c'était leur spiritualité des Bnei Israël. Et si les Bnei Israël avaient accepté les Malchut Yavan, ils avaient accepté la religion des Yevanim, ils ne les auraient pas tués. Donc puisque c'est dans l'âme, c'est pour cela qu'à Hanouka, ce n'est pas une fête où on va le fêter par le matériel, mais au contraire par le spirituel. La lumière, c'est ce qui est aussi spirituel. Et l'étude de la Torah, particulièrement comme c'est marqué, que l'on doit faire à Hanouka. Qu'est-ce que les Yevanim ont vraiment voulu ? Il y a dans le Sefer Derech Hashem du Ramchal, il rapporte une phrase intéressante. Il dit que Kol tikun shenitkan veor gadol sheir bizman meazmanim, c'est-à-dire que tout ce qui a été arrangé ou toute lumière qui est arrivée à une époque particulière à nos ancêtres, beshuv tkufat azman, ou lorsque revient cette même période, on va prendre l'exemple de Hanouka, lorsque revient Hanouka chaque année, Yahir aleinu or me'en or arishon, il va briller sur nous une lumière comme cette lumière qui a brillé à l'époque de Hanouka. C'est-à-dire que aujourd'hui encore, Hanouka, ce n'est pas que du passé. Hanouka, ce que nous avons reçu à Hanouka, la lumière que Kadosh Baruch Hu nous a éclairée à Hanouka, ce qu'on a gagné à Hanouka, c'est quelque chose qui revient de nos jours. Et nous allons voir qu'en vérité, la galoute de Yavan ne nous a pas complètement quittés. Elle est là encore jusqu'à aujourd'hui à poursuivre Am Israël de manière différente. Alors, on va essayer de voir un peu qu'est-ce que c'est cette Malchut Yavan. Qu'est-ce que les Yévanim ont voulu faire au Am Israël. Le Midrash Rabba nous dit, au début de Sefer Bereshit, Ve'aretz haïta tohu vavou. Vous connaissez ce passou? La terre était tohu vavou, ve'chosher al peneteum. Tohu, c'est Malchut Babel. Comme c'est marqué, Raïti et Taaretz vinetou. On rapporte un pasouk à propos de Babel que ça s'appelle Tohu. Donc la période de Tohu, c'est l'exil de Babel. Ubohu, c'est Malchut Madai. Madai, c'est Aman, c'est Esther. Comme c'est marqué, Vayavilou Leavi et Aman. Vayavilou, Vilou, Vayavilou. On traduit, se sont dépêchés d'amener Aman. Mais Vayavilou, c'est Bohu. Donc le Midrash nous dit, Bohu, c'est Madai. Vechosher zo malchut Yavan. L'obscurité, c'est Yavan. Pourquoi? Là, il n'y a pas de pasouk. Shirchicha enem shel Israël bixeroteim. Ils ont, Shirchicha asumri, les yeux du Ham Israël par leur xerot. C'est quelque chose qui avait l'air d'être connu de tous, que Yavan, c'est du chosher. Shaita omeret laem. Yavan disait au Bnei Israël, Katuv al keren ashor shen lachem chelek beloi Israël. Écrivez sur la corne du taureau, vous n'avez, on n'a pas de part chelek beloi Israël. C'est ce qu'on devait écrire al keren ashor. C'est quoi le keren ashor? On va essayer de l'expliquer. Un jour, Moshe Shapira avait donné dans un shiur, il avait expliqué le keren ashor, c'était le biberon de l'époque. Puisqu'ils n'avaient pas de moi, comment on prenait un keren, une corne, un petit trou et on donnait à boire. Qui te voit le keren ashor? C'est-à-dire que les enfants, dès leur naissance, il y avait marqué keren, dès le biberon, en anu chelek belo Israël. C'est ça qu'ils ont demandé à chacun. Ensuite, bien sûr, la malchut al peneteom, c'est malchut archa, c'est la malchut de Edom, chen la cheker kemoatem. Elle n'a pas de fin, elle ne se finit pas et ceux qui vont à Edom. On ne peut jamais arriver à la fin de Edom, ils ont toujours encore quelque chose. Ils sont jusque, comment dire, à l'infini. Ils ont toujours de nouvelles idées contre nous. Donc le Midrash, il nous rapporte les quatre galouyotes. Et la galoute de Yavan, elle est appelée comme celle qui nous a Hirshichu Enehem shel Israël, nous a assombri les yeux du Ham Israël. C'est quand même assez étonnant que cette Malchut Yavan. Yavan, c'est au contraire, c'est la lumière, Yavan. C'est la science, Yavan. Toutes les chochmas,
la philosophie. La lumière personnelle d'Israël.
Alors, elle a enlevé cette lumière. Donc, elle qui est venue apporter une lumière.
On peut traduire la Torah, on peut la traduire en grec.
On peut la traduire en grec, comme on va le voir, seulement en grec. Seulement en grec, et pas non. Alors, il y a comme cela beaucoup de pirushim. On voit combien. Qu'est-ce que c'est exactement la maout de Yavan? Alors, Yavan, comme on le voit dans Nesfarim, se sont particulièrement intéressés à la nature de ce monde, au Teva. Au Teva, ils ont approfondi le monde. Ils ont analysé le monde dans toutes ses formes. Mais dans un seul but, c'est-à-dire de pouvoir utiliser ce monde
pour eux,
pour l'homme. C'est-à-dire ils vont étudier la création du monde, ils vont étudier le Teva pour devenir les maîtres de la nature et pour pouvoir eux-mêmes faire de la nature ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on est aussi dans un monde où on recherche que essayer. On peut tout faire aujourd'hui, puisqu'on peut faire des clones, on peut tout faire aujourd'hui. On peut faire d'hommes, on peut choisir, on peut. Tout ce que l'homme n'a pas imaginé petit à petit, m'a utilisé toute la création d'Akadosh Baruch Hu pour en devenir les maîtres de la création, pour pouvoir disposer.
À Adam.
Alors, Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'utiliser la création, d'utiliser ce monde pour la ramener vers Akadosh Baruch Hu. Et eux, Yavan va faire exactement le contraire. Il va prendre ce monde-là pour être le maître du monde et s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est en deux mots, les fameux Yévanim. Donc c'est vrai que les Yvanim, ils avaient une chokhma particulière, comme la Gemara nous dit. Chokhma bagoïm ta'amin. Il y a de la chokhma chez les goïm. Les Yvanim étaient particulièrement chachamim. Il y a un terme du Maharal de Prague qui est rapporté ici, où le Maharal de Prague dit les mots suivants. Le Maharal... Ici, le Maharal, je voulais vous lire les mots même du Maharal, parce que déjà, les traduire le Maharal, c'est déjà ne pas dire exactement ce qu'il dit. Donc en plus, si on le dit de tête, c'est vraiment enlever une partie de... Alors... Le Maharal dit comme ça. Ve'akiru vaze atzmo. Non, juste avant. Ve'lefichach, auma azot. Cette nation, les Yévanim. Bikshu shirtevu lahem chachamim à Torah yévanite. Ils ont demandé que la Torah soit écrite en grec. Ve'ze more, ceci montre shachochma shayech lahem biyoter min shara umot. Ça montre que la chochma était liée aux Grecs plus que toutes les autres nations. Et justement, poursuit le Maharal, Akiru vaze atzmo, la chokhma ve la Torah. Cette proximité qu'avaient les Grecs, cette reconnaissance de la chokhma de la Torah, c'est ça qui aya gorem sheratzu laved mehem Israël la Torah. C'est pour ça qu'ils ont voulu enlever d'Israël leur Torah. Ki en gibor mitkane et la begibor shekamoto. C'est-à-dire un homme fort n'est jaloux que d'un autre fort. Un homme fort n'est pas jaloux d'un faible. Il veut rechercher quelqu'un qui est à son niveau. Donc les Yévanim avaient aussi une chorma et recherchaient une chorma qui était au moins concurrente à leur chorma. Et c'est pour cela que Ratzul avait même la Torah. Ils ont voulu leur faire perdre la Torah. Ils ont voulu chez Ratzua ou Maazot levatel min Israël ma'alatam ha'elokit ha'elyona sheyesh l'Israël. Ils ont voulu annuler du Am Israël leur Ma'ala particulière. Am Israël, qui est au-dessus de toutes les nations, qui a été le peuple élu par Akadosh Baruch Hu, ils ont voulu leur enlever cela. Ils ont été gozer, les Vatel même à Torah et l'Akit. Et donc il dit, le Maharal, les Yvanim ne voulaient pas exterminer les Juifs, ils voulaient leur dire, El Nachem Chelek, vous n'êtes pas le peuple élu. Les Mefarshim rajoutent le Keren Hashor. Ils ont voulu dire le Shor. Le Shor, c'est quoi? C'est le taureau, c'est la faute du Vaudor. Vous avez perdu votre grandeur par la faute du Vaudor. C'est fini. Plus encore, il y a dans le Shor, vous savez que dans la Merkava, le Kissé Akavod, le trône céleste, est composé de quatre visages, c'est marqué. Il y a entre autres Pene Arié et il y a le Pene Shor. Pene Arié, Pene Shor. Il y a le lion et le Shor.
Yehuda
et Yosef. Les Mefarshim m'expliquent. Lorsque les Bnei Israël ont fait le veau d'or,
ils ont fait. Les deux autres.
Les deux autres, il y a le Necher et il y a l'homme. Qu'est-ce que Am Israël a voulu faire dans le veau d'or? Pourquoi ils ont pris un veau? Pourquoi le Shor? Le Shor symbolise quelque chose. Le Arié symbolise aussi. Le Arié, c'est le roi des Chayot, de toutes les bêtes sauvages. Le Shor, c'est ce qui représente le Teva, la nature. Am Israël, lorsqu'ils ont remplacé, puisque Am Israël ne voulait pas faire Avodah Zara, ils ont voulu un dirigeant à la place de Moshe Rabbeinu. C'est comme ça que le Ramban l'explique. Ils ont voulu un Shor. C'est-à-dire qu'Am Israël ont dit, jusqu'à présent, on a été conduit par Akadosh Baruch Hu, par Moshe, et on a eu une anaga de miracle au-dessus de la nature. Maintenant que Moshe Rabbeinu est mort, on n'a plus droit à cette daga d'au-dessus de la nature. On veut être dans le shor. Le shor, c'est-à-dire dans la nature. On va avoir une anaga qui est normale. On a besoin d'un dirigeant au niveau de l'être humain. Il ne se sentait plus au niveau du Nes.
Il ne voulait plus.
Les Yévanim sont arrivés et ont dit « Am Israël ». C'est la nature, le Teva.
C'est le Révrav.
Ah bon. Mais les Yévanim, lorsqu'ils sont venus, ils ont dit « Écrivez al Keren Hashor ». Ils sont venus dire au Am Israël, tout ce que vous parlez donc de miracles, de Nes, de choses qui sont au-dessus de la nature, tout ceci, mettez de côté. Vous n'êtes plus le peuple élu d'Akadosh Baruch Hu, et comme c'est marqué, Irshichu Enehem, leurs yeux, c'est-à-dire, c'est quoi Irshichu Enehem? Les Mefarshim disent, il y a un mot Irshichu Enehem, c'est-à-dire ils ont assombri leurs yeux, c'est-à-dire ils ont assombri le regard du Ham Israël sur eux-mêmes. Ils sont venus dire au Ham Israël, votre regard que vous avez sur vous-même n'est pas le bon. Vous êtes comme tout le monde, c'est fini, vous n'êtes plus.
Ils ont éteint la lumière divine du peuple
d'Israël. Ils ont éteint la lumière divine, ils ont dit à Ham Israël, ne vous regardez plus.
Ce qu'on appelle le Zikaron.
Ne vous regardez plus comme étant, vous, le peuple élu d'Akadosh Baruch Hu, vous êtes le Shor, comme tout le monde, le Teva. Les Yévanim ont été chercher les huiles. Pourquoi ils ont été chercher des huiles? C'est quand même étonnant. Il y a une armée forte, Ndera, qui va souiller le Beth Amikdash. Ils ont été, chaque huile qu'ils ont trouvée, ils ont mis leur... C'est vraiment aller chercher la petite bête. C'est-à-dire vraiment, vous allez dans un endroit et vous allez chercher toutes les violes d'huile et aller mettre votre sabre, dans votre couteau dedans pour les rendre impurs. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont rendu impurs? Ils le connaissaient un peu, ils savaient que les Am Israël parlent de pureté et d'impureté. Ils ont voulu tout enlever de ça. Il n'y a pas d'impureté. Il y a ce que l'on voit. Il n'y a rien qui est là. Il n'y a rien de spirituel. Il y a le spirituel. Tout ceci n'existe plus. Il y a « En lachem chelek belo Israël ». Écrivez-le « Al keren hashor ». C'est-à-dire le « shor », c'est le « teva ». Et « Davka le yevanim » se servait de ce « teva », de ce « nabour », montrer la suprématie de l'homme qui allait utiliser le Teva, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que l'homme utilise, le Teva, même l'atome, la bombe atomique, elle a été au départ créée pour détruire. Ensuite, on va être utilisé à des fins qui sont un peu plus, pacifiques, etc. Mais l'homme veut utiliser le monde pour dominer, pour tuer. Bon, ça, c'est Yavan. Donc, cette malchoute de Yavan, en vérité, c'est un exil qui est spirituel, c'est-à-dire ils se sont attaqués à la spiritualité du Ham Israël. Ils ont recherché dans Ham Israël toute cette partie divine qui était, ont voulu l'effacer. Ils ont voulu faire pénétrer le Shor, c'est-à-dire le Teva, puisque le Shor est représenté comme la Hanaga du Teva, comme le Vaudor, puisque c'est ce que les Bnei Israël avaient dit. D'ailleurs, ce sont les Mefarshim qui expliquent. Vous n'avez plus droit à cette Hanaga qui est miraculeuse. Et en inscrivant ainsi, depuis leur plus jeune âge, en disant « En lachem chelek blo Israël », c'est-à-dire « ça y est, vous n'avez plus de part, vous n'êtes plus un peuple comme nous. » Lorsque Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de ces Yévanim, il a fallu d'abord que Matatyahu et ses enfants se décident d'attaquer. Il fallait agir. Il y a une fameuse... Il y a un Mahamar très connu, le fameux Rav Elchanan Wasserman, qui a été tué pendant la Shoah. C'était un élève du Hafetz Chaim. Où le Rav Elchanan Wasserman pose la question, comment se fait-il que à Hanouka, les Bnei Israël ont pris les armes et ont été attaqués les Yévanim, alors qu'à Purim, Am Israël n'a pas pris les armes, mais s'est réfugié dans la prière. Ils ont prié. Pourquoi ils n'ont pas été à Purim aussi? Après, une fois qu'ils ont eu l'ordre, la permission d'être lui, ils sont sortis pour les tuer. Mais ils ne sont pas sortis en guerre contre Mouman. Est-ce qu'ils n'avaient pas... C'est vrai qu'ils étaient pêchés, mais est-ce qu'ils avaient moins de chance? Ici aussi, les Yévanim étaient beaucoup plus nombreux qu'eux et ils n'avaient aucune chance, comme on dit dans l'analyse.
Ils étaient combien? Je ne sais pas combien ils étaient.
Masata Giburim Biyat Halashim. Les héros étaient les forts dans les faibles, Rabim Biyad Me'atim, nombreux dans peu, et Rechaim biyat sadikim, ça c'est un peu étonnant. C'est-à-dire comme si les Rechaim, ils doivent toujours gagner la guerre. Hein. Tu as mis les Rechaim dans les mains des sadikim, comme si ce n'est pas normal. Si c'est parce que les sadikim, ils sont faibles, ça on l'a déjà dit qu'ils sont faibles. Donc il y a encore quelque chose ici dans les Rechaim et les sadikim. Rav Elchanan Wasserman donne la réponse suivante. Ni comme ça. Lorsqu'on s'attaque au corps de Ham Israël, on doit prier. Parce que lorsque les goyim s'attaque à nous, à notre corps, c'est qu'on a une xéra, Akadosh Baruch Hu veut nous punir. Donc comme il veut nous punir, Am Israël est attaqué par les goyim, il faut prier. Lorsque on s'attaque à notre spiritualité, là ce n'est pas une xéra pour nous punir, c'est un nisayon, une épreuve. Et donc là il faut aller contre eux. Vous savez ce que le Hafetz Chaim avait dit? Il avait dit que lorsque en Russie, les premiers s'étaient levés pour interdire toute la judaïsme, le Hafetz Chaim a dit qu'on aurait dû à ce moment-là prendre les armes et se battre contre eux, même si on aurait peut-être perdu, mais c'est comme ça qu'on aurait dû faire. Parce que lorsqu'ils se sont attaqués aussi contre le Ham Israël, contre la Torah et les mitzvot, la pratique de la mitzvot, c'est là qu'il faut aller tout de suite se défendre, tout de suite attaquer. Ça, c'est ce qui s'est passé avec les Yévanim. Les Yévanim sont venus attaquer Ham Israël. Bien sûr que c'était pas juste par les armes et les soumettre, ils voulaient, c'était une destruction spirituelle qu'ils cherchaient à faire. Eh bien, Am Israël se sont levés, ont pris les armes et se sont levés contre les Yévanim.
Et
alors, c'est vrai qu'il y avait, ce qu'on appelait les Mityavnim, c'est-à-dire qu'il y avait les Yévanim, il y avait les Mityavnim et il y avait encore les derniers, c'est Matatyahu et ses enfants. Les Mityavnim, c'était ceux qui disaient bon, ça y est. C'est fini.
Soyons modernes.
La Tundra, effectivement. L'Amérique. Vous voyez qu'il y a une grande chorma intéressante chez les Yévanim. Vous savez qu'il y a une histoire qui est une petite anecdote, entre parenthèses, qui est assez étonnante. C'est que la petite fille du Hafetz Chaim avait été partie faire ses études à l'université à Berlin, à Berlin. Et un jour, elle est revenue. Donc son père, le Hafetz Chaim, et lui dit: Zaïdé, grand-père, jusqu'à quand tu vas rester ici dans l'obscurité? Jusqu'à quand? Viens voir à Berlin, qu'est-ce qu'il y a là-bas à Berlin? Quelle lumière il y a là-bas? Et toi, tu es là dans tes livres dans l'obscurité. Et on sait ce que représente aujourd'hui pour nous le Hafetz Chaim, ce qu'il a apporté dans le Ham Israël, ses livres, le Mishnah Bura, le Hafetz Chaim, c'est la lumière, il nous a apporté la lumière. Mais pourtant, il y a cette vision, effectivement, bon, on ne va pas dire qu'elle était une race, je ne parle pas de ça, mais il y avait cette manière de voir où Am Israël se trouvait, effectivement, dans une position où toujours il y avait cette chorma. Parce qu'il y a une chorma chez les goïm qui nous attire. Parce que de la même manière que les goïm sont attirés par la chorma de Am Israël, parce que celui qui aime la chorma, il recherche la chorma, Am Israël est aussi un peuple qui recherche la chorma. Donc on recherche la chorma. Si on ne va pas la chercher dans la Torah, alors on va la chercher ailleurs. Et lorsqu'on va la chercher ailleurs, on s'imagine que cette chorma-là, elle est plus grande que celle de la Torah, alors qu'en vérité, elle est peut-être plus attirante lorsqu'on ne connaît pas la Torah.
Scintillante.
Et lorsque...
Lorsqu'on
ne
connaît pas la Torah.
Lorsqu'on voit là-dedans, on voit cette lumière qui est une chorma élakite qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, c'est là où on arrive à faire le contrepoids contre cette chorma difficile qui nous entoure. Donc d'une certaine manière, on peut dire que même si nous avons vaincu à l'époque les Yévanim, mais cette galoute, cet exil de Yévanim et les Mityavnim nous poursuit encore jusqu'à aujourd'hui, puisque encore nous avons les mêmes idées encore qui reviennent à chaque fois attaquer le Ham Israël, me dire Ham Israël, jusqu'à quand avec votre Torah, votre... Ou, ça y est, pour... L'égoïme, le monde doit évoluer et donc la Torah est du passé, n'a pas son actualité. Donc on vit encore et d'avka chaque année à Hanouka, comme nous a dit le Ramchal, on a la même lumière, cette même force qui nous a permis à l'époque de vaincre les Yévanim et que nous poursuivons par cette lumière que nous allumons à Hanouka, ce Pirsoumé Anes. On poursuit de se battre contre cette Chochma Yévanite et de voir dans Akadosh Baruch Hu et dans le Teva, on va voir la main d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, comme nous avait dit le Maharal, si on avait voulu fixer Hanouka juste parce qu'on a vaincu la guerre avec les Yévanim, on aurait peut-être pu faire dépendre cette victoire de la force des hommes, de la force des Yévanim, et que même si, pardon, pas des Yévanim, force des Hashmonaim, et que même si ils n'étaient pas si nombreux, mais on a toujours, nous, des bonnes réponses pour dire que ils avaient même d'une manière logique et naturelle, sans miracle, ils auraient pu vaincre les Yévanim. Donc on a à côté le Nes de Hanouka, de la fiole de l'huile, pour nous montrer que tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait et continue à nous faire, tout ceci c'est des miracles, même qui sont cachés dans le Teva. Donc là où les Yévanim sont venus dire, il n'y a pas de au-delà de la nature, il n'y a que la nature, c'est Dafka ici où le miracle il se fait dans le Teva et que nous allons fêter ces 8 jours de Hanouka. Et comme on le dira donc dans Alanissim, d'après le Maral, on comprend pourquoi on ne parle pas vraiment du Nes, parce que le Nes de la fiole, c'est pas le miracle, c'est pas pour ce miracle-là qu'on a fait Hanouka. On a fait Hanouka parce que on a vaincu, Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de vaincre les Yévanim et toute cette force, toute cette galoute de Yavan qui nous attaquait. Donc le miracle et qui nous attaque et le miracle de la fiole d'huile n'était en vérité que pour nous montrer que c'était vraiment un miracle. Donc pour cela, le Maharal, que ce n'est pas mentionné dans le Alanissim ou dans Nanerot Alalu, parce que ça c'était juste secondaire, bien que c'est ce que nous avons, il nous reste, puisque pour la guerre on ne fait pas de rappel aujourd'hui à part. Donc dans le Alanissim, on va dire Masar Tak, on dit tu as donné Giborim, les forts Beat Chalashim, dans les mains des faibles. Et on dit Rabim Beat Meatim, nombreux dans les Meatim. Et on dit aussi Rechaim Beat Tzadikim. Qu'est-ce que cela signifie Rechaim Beat Tzadikim? Comme si les Tzadikim ont moins de chances de gagner la guerre que les autres. En vérité, les Tzadikim, si c'est parce qu'ils sont faibles, comme on a dit, alors c'est déjà marqué. Même Biat Chalashim. Donc c'est qu'en vérité, il y a aussi autre chose. C'est ce que nous dit le Tosfot Yom Tov à propos du Kohen Gadol le jour du Yom HaKippurim, où il y a marqué qu'on faisait attention que le Kohen Gadol, le jour du Yom HaKippurim, il ne dormait pas toute la nuit pour qu'il ne devienne pas impur. On le gardait de toute impureté. On faisait très attention à lui. Et c'était même un miracle marqué dans Pirkei Avot, un des 10 miracles au temple, au Bet Hamikdash, que jamais le Kohen Gadol n'a été impur le jour de Kippour. Et le Tosfot Yom Tov se pose la question, pourquoi il fallait un miracle pour cela? Comme si devenir impur était quelque chose de tellement courant qu'il fallait un miracle pour qu'il ne soit pas impur. Et le Tosfot Yom Tov répond, il donne l'exemple de deux personnes qui se bagarrent, qui se disputent. Lorsque un sent que ça y est, il va perdre, qu'il va être vaincu par l'autre, tout d'un coup il a une force qui va, peut-être il va arriver au dernier moment à avoir le dessus sur son ennemi. C'est-à-dire que lorsqu'il sent que ça y est, c'est sa fin, il va disparaître, c'est son dernier espoir, il a une force particulière. Alors, dit le Tosfot Yom Tov, sur les Mishnayot, le Satan, le jour du Yom HaKippurim, disparaît ce jour-là. Il sait que c'est son dernier instant. Et donc, c'est pour cela qu'il va avoir une telle force, etc., que s'il n'y avait pas de miracle, le Kohen Gadol aurait été impur. Il aurait une telle force de rendre impur le Kohen Gadol pour empêcher la Avoda au Beit HaMikdash de Yom HaKippurim, mais c'est pour cela qu'on avait besoin d'un miracle. Là aussi, Masarta Rechaim Biyat Tzadikim, c'est un miracle que les Tzadikim ont gagné la guerre, parce qu'il y avait une telle force du mal qui régnait à l'époque, que lorsqu'au moment de la guerre, on voulait éteindre, on voulait enlever ce mal-là, alors on imagine bien que la Sitrara, le Yetzerara, se serait déchaîné pour avoir le dessus même sur les tzadikim. Et donc c'est ça qu'on dit que Hachem, tu as donné même les Rechaim dans les mains des tzadikim, c'est un miracle, parce que c'est pas évident, parce que normalement, le Satan a tellement de force qu'à la dernière minute, il aurait eu, lui, le dessus sur les tzadikim. Donc ça, c'est ce que nous lisons donc dans le Alanissim. Donc voici, on a fait un petit peu le tour donc de Hanouka, de Yevanim, comprendre de cette galoute de Yavan qui se trouvait même en Eretz Israël à l'époque du Beit HaMikdash. Et donc lorsqu'on s'est retrouvé avec ce lien, s'est renforcé avec Akadosh Baruch Hu, c'est là qu'a se terminé cette galoute, mais qui peut revenir, puisque cette galoute est différente des autres exils, où c'est lorsqu'on est en dehors de notre terre, celle-ci peut se trouver même en Israël, lorsque on prend exemple et qu'on ramène la Tarbout Yavan à l'intérieur des Rêtes Israël, c'est là que nous avons toujours ce combat qui existe. Voilà.
C'est les deux Hormot, elles sont complémentaires, elles ne sont pas exclusives. Parce que c'est Hachem qui a créé la nature. Et donc pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de dire mais les Chachamim doivent être aussi des sages dans les sciences de la nature? C'est parce qu'il y a un problème de temps, peut-être. On n'a pas le temps de faire les deux choses.
C'est vrai que dans la Gemara, on a la question qui a été posée par, je ne me rappelle plus quel rave, qui avait demandé à son maître, « Moi qui ai étudié toute la Torah, est-ce que je peux étudier la Chorma Yevanite ?» Et il lui a répondu, « Si tu trouves un moment qui est ni jour ni nuit, tu pourras l'étudier, parce que c'est marqué « Vagitabo yomam valaila ». C'est-à-dire que, certainement, ce qui a l'air d'être, je fais une déduction de ce qui est marqué dans cette Gemara, ce qui a l'air d'être marqué dans cette Gemara, c'est que, à Kadosh Baruch Hu ne demande pas plus d'étudier toutes les chokhmot qu'à travers la Torah. Bien sûr que si on a besoin pour comprendre la Torah d'une chokhma, on peut aller chercher cette chokhma comme l'a fait le Rambam, fait le Gaon de Vilna. Avec le Gaon de Vilna, on raconte qu'il avait une chokhma dans toutes les chokhmot. Maintenant, où est-ce qu'il l'a trouvé cette chokhma? Est-ce qu'il a été la puiser à l'extérieur? Je ne pense pas. Il est l'appuyé à travers la Torah. Peut-être qu'il a reçu aussi des dons du ciel. Mais c'est vrai que, comme vous dites, c'est peut-être une... Je ne vais pas dire une question de temps, sinon Akadosh Baruch Hu nous aurait donné la possibilité. Il y aurait peut-être eu un moment qui est ni jour ni nuit.
Les
Donc c'est que... On se suffirait de la Torah si on a... Si on étudie comme il faut la Torah, bien sûr. Un niveau qui est... toujours plus en profondeur, parce que la Torah a des profondeurs.
Je peux intervenir un tout petit peu avec votre respect et votre accord. Une minute, parce qu'on a pris déjà beaucoup de temps. Première chose, la Torah qu'on a là, qui correspond au second table de la loi, vont intéresser surtout ce qu'on appelle le Nefesh. Mais le fait qu'on retourne en Eretz Israël, la Torah devient une Torah de délivrance. C'est-à-dire que c'est la même Torah, bien entendu, mais seulement elle va concerner la Neshama. Et là, elle va nous séparer quelque part de ce monde d'obscurité, de galout, qui fait qu'en faisant l'union de la Torah de la Neshama avec la Torah du Nefesh, on arrive véritablement à une Torah qui est la même, mais notre regard change, la Torah du Mashiach, la Torah de la délivrance. Qu'est-ce que c'est que la Torah de la délivrance? La Torah de la délivrance, c'est d'abord de mettre l'union entre le Kodesh et le Chol. C'est-à-dire que, pour moi, personnellement, Fabien Babou, Karl Marx a été envoyé par Dieu. Donc, il a fallu que je passe par vraiment l'étude du marxisme, profondément, pour revenir après à l'étude de la Torah. Mais quand est-ce que c'est arrivé? À la fin d'un processus. Moi, je n'ai pas fait les yeshivot, je n'ai rien fait de tout ça. Et pourtant, Baruch HaShem, grâce à Dieu, humblement, je suis arrivé à un tout petit niveau de Torah, sans passer par tous les rachamim et tous les yeshivot, mais un derrière personnel qui fait que par l'universel, j'ai compris que dans l'universel, il y avait Israël, et Israël est une part de l'universel. Et dans cet universel qui est Israël, n'est-ce pas, notre travail à nous, c'est de dire à l'universel que Dieu est un. Ça veut dire que Dieu met de l'histoire. Et pour cela, il faut connaître les sciences profanes, pour les intégrer, parce que ça aussi c'est de la Torah. Les sciences profanes, c'est de la Torah. Tout vient d'Hachem. Ce n'est pas les Avdil, le Kodesh Lechol, à notre époque, à nous. Et ça, pour pouvoir comprendre ça, il faut que la Torah de l'Eneshama nous pénètre. Et malheureusement, aujourd'hui, être en galoute, à mon sens, c'est de vivre une Torah qui est une Torah du Nefesh, uniquement du Nefesh. Il faut absolument faire en sorte que cette Torah, et là on le vit tous les jours, cette Torah prend un sens dans la part universelle qu'est Israël. Israël, c'est quoi? C'est le Tikkun d'Adam Harishon. Il faut absolument reconstituer l'universel. Voilà, en gros, en partir de l'Israël. Et c'est ce qu'ont voulu nous empêcher les Grecs, Napoléon, et jusqu'à Hitler. Napoléon, en 1806, a dit au duc de Berny, voilà comment vont voir les Juifs. Il faut développer le mariage mixte. dans des lettres qui sont évidemment très, très, très peu connues, il a dit au duc de Berny, on va les avoir comme ça, par le mariage. Il faut les ouvrir, la démocratie, tout ce que tu veux, et c'est comme ça qu'on va... c'est le combat des Grecs. Et aujourd'hui, on dirait la télévision et tous ces machins-là, etc., qui fait que ça nous empêche de quoi faire ? De faire l'union entre la Neshama et le Nefesh. Voilà.
Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une question que les Yavanim?